Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, chaleureuses auditeurs et auditrices. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce lundi 9 février. Aujourd'hui, ça vous aura pas échappé, ce sont les vacances pour certains et certaines d'entre nous, singulièrement les plus petits. Et pour l'occasion, les structures culturelles, ciné, musées, médiathèques et autres, adaptent leur programmation. Le château, centre d'art contemporain et du patrimoine d'Aubenas notamment, sera ouvert pendant les vacances, du mercredi au dimanche de 11h à 18h, et propose pas mal d'ateliers à faire en famille. Aussi, on a décidé d'ouvrir à nouveau les portes du château et de vous donner à réentendre l'une des voix des artistes présentées jusqu'au 8 mars. Il s'agit de Baptiste Cachia. Il y expose sa première rétrospective Canicule, et lors de l'interview, donc d'il y a quelque temps, on se posait notamment la question, aujourd'hui en 2026, qu'est-ce qu'un artiste plasticien qui travaille l'image peut proposer dans un monde saturé d'images ? Baptiste Cachia et Victor Secrétan, qui étaient alors directeurs du château, nous répondaient. Mais d'abord, c'est Sylvain qui répond tout de suite. Bonjour Sylvain.
Bonjour, ça va bien ?
Oh oui, oui, ça va, on aimerait être en vacances peut-être. Oh non, on est tellement bien avec les auditrices et les auditeurs, en vrai. Et puis on fait un petit tour d'agenda. Un petit tour d'agenda qui prend l'air ce lundi. Au vaisseau mère à vaisseau, c'est la semaine spéciale « Nos amis les oiseaux ». Et mercredi, de 9h à 16h, il y a un atelier de fabrication de nichoirs pour oiseaux avec l'équipe de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Le vaisseau mère ouvre son jardin collectif pour l'occasion, et pendant toute la journée, vous pourrez fabriquer des nichoirs et favoriser comme ça l'installation et le maintien de la biodiversité locale. Oui, les enfants accompagnés sont les bienvenus, bien sûr. Vous trouverez toutes les infos pratiques de la journée sur le site de la LPO et aussi sur le site du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Et donc ça, c'est mercredi de 9h à 16h. Au vaisseau mère, à vaisseau, et comme j'ai parlé d'une semaine spéciale, il y a un autre événement, c'est vendredi, il y a une mini-conférence naturaliste de 19h à 20h30 pour le lancement de la saison 2026 du comptage des oiseaux au col de l'Escrinet, et c'est Reda, l'écologue fauniste génial qui vous ferait aimer le plus pervers des pivers. Au programme, donc avec Reda, une mini-conférence sur les migrations des oiseaux, suivie d'un apéro-discussion et d'une rencontre avec les groupes locaux de la LPO. C'est l'occasion rêvée pour participer au comptage et s'impliquer localement. Donc ça, ce sera vendredi 13 de 19h à 20h30 au vaisseau mère de vaisseau. On continue, tiens, on file la métaphore avec les oiseaux, puisque ce samedi, donc 14 février, à 17h30, à la Maison des Associations des Vences, l'association Paillolive propose une conférence participative « Les corps vidés au sommet de l'intelligence animale, pourquoi ?» Et c'est une conférence donc animée par Bruno Machtelink, alors je suis désolée pour la prononciation, qui est ornithologue spécialiste des corvidés. Les corvidés, vous le savez, sont parmi les animaux à l'état sauvage les plus proches de nos comportements humains. Quand on parle de corvidés, évidemment on parle de corbeaux, de corneilles, de pies, il y a les geais aussi, je pense qu'ils font partie de cette famille. C'est participatif, c'est-à-dire que chacun pourra partager son expérience avec les corvidés. C'est donc samedi 14 février à 17h30 à la Maison des Associations des Vences. Les corvidés créent-ils des œuvres d'art ? Où vont-ils dans des lieux spécifiques pour en voir ? Tiens, c'est une bonne question. T'as une idée là-dessus ?
Je sais pas, je suis assez vidé.
Une question à poser peut-être samedi à la Maison des Associations des Vences pendant cette conférence. Mais nous, en tout cas, on est de drôles d'oiseaux qui créons et avons besoin de nous confronter aux créations des autres. Et avant d'entendre l'interview de Baptiste Cachia pour l'exposition Canicule, à voir au château d'Aubenas, je le rappelle, jusqu'au 8 mars, voici quelques-uns des ateliers qui sont proposés par le château pendant les vacances d'hiver. D'abord, mercredi à 16h, il y a un atelier pour confectionner en famille un bouquet de fleurs en papier inspiré par l'exposition « Je suis verticale, mais ». Donc ça, c'est mercredi à 16h. C'est à partir de 5 ans. Ça dure une heure, comme tous les ateliers qui sont proposés, tous les ateliers famille. Et c'est 25 euros par famille, c'est-à-dire que ça comprend un ou deux adultes et jusqu'à 4 enfants. Donc voilà, c'est un package. Et bien sûr, les réservations sont conseillées. Ça, c'est mercredi. Jeudi, c'est l'atelier pour réaliser une carte pop-up du château, avec son donjon, ses tuiles colorées, sa façade monumentale, vous le voyez là, c'est le château d'Aubenas, l'emblème de la ville. Donc voilà, un atelier ludique et créatif, comme le disent si bien les chargés de com, pour en apprendre plus sur l'architecture du château. Je mange mes mots, hein, c'est lundi, c'est la reprise, c'est un petit peu compliqué. C'est le même prix, et idem, la réservation est conseillée, là, c'est plus un atelier à partir de 6 ans. Et puis, on s'approche. J'ai pas noté. Ben c'est vendredi 13, bien sûr, pour faire danser les squelettes à la manière de Baptiste Cachia. Vous apprendrez à fabriquer un squelette articulé en papier. Ça, c'est à partir de 7 ans et c'est au même tarif. Un squelette. Tiens, mais quel est ce drôle d'oiseau nommé Baptiste Cachia ? Eh ben, on le découvre juste après avoir mis le feu. Et on est sur un fréquencette, alors c'est pas Johnny Hallyday. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. On allume le feu de l'art et de la beauté avec The Doors et Let My Fire, sorti en 1967. On allume le feu de l'art et des images Et on ne met pas l'art et les images dans le feu. Attention, il ne faut pas se tromper. Non, si on se laisse consumer, c'est par les canicules, titre de la première exposition monographique en institution de Baptiste Cachia, qui donne à voir jusqu'au 8 mars une cinquantaine d'œuvres, dont certaines créées pour l'occasion. L'occasion, comme l'institution en question, étant le château, centre d'art contemporain et du patrimoine d'Aubenas. Alors aujourd'hui, en 2025-2026, qu'est-ce qu'un artiste plasticien qui travaille l'image peut proposer dans un monde saturé d'images? Quelle voie peut-il se frayer et pourquoi faire? C'est l'une des questions qui me turlupine depuis que j'ai vu ses œuvres et que je pourrais poser donc directement à Baptiste Cachia puisqu'il est là. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Et que je poserai aussi à Victor Secrétin qui a décidé d'inviter Baptiste Cachia. Bonjour Victor.
Bonjour Sophie.
Directeur du château, centre d'art contemporain et du patrimoine d'Aubenas. On vient d'entendre Light My Fire des Doors, qui est aussi le titre de l'une de tes œuvres. Alors pourquoi ce titre? Et est-ce que, de manière plus générale, les années 60 t'influencent et comment?
Alors pourquoi le titre? C'est assez simple. Je vais souvent droit au but. Et Light My Fire, donc la toile qui porte ce titre, est une photographie qui vient de Los Angeles, des méga-feux qui ont eu lieu en début 2025, je crois. Et donc c'est à Los Angeles, il y a du feu. Je me suis dit feu, Los Angeles, Light My Fire, les Doors.
Okay.
Et c'est un groupe que appréciait beaucoup mon père aussi.
D'accord. Donc les années 60, c'est plutôt par ton père.
Par mon père et aussi beaucoup d'artistes qui m'ont influencé dans les années 60, comme Robert Rauschenberg, qui est un artiste américain, Sigmar Polke aussi, qui est un artiste allemand. Et il y a un travail de l'image imprimée aussi dans les années 60 qui est très intéressant et qui va au-delà justement de la simple reproduction.
Mmh. Eh bien justement, on va en parler. Ça va être juste la question directrice en fait, hein, qu'on se pose et que je vous ai posée et que je me suis posée en voyant l'exposition. Victor, pourquoi avoir invité Baptiste?
Ben, je pense que tu as vraiment posé la question essentielle. S'il y a une question, c'est vraiment celle que tu as posée. Qu'est-ce que veut dire peindre dans un monde saturé d'images? Et tout le travail de Baptiste, il repose sur des images qu'il prend lui-même, qu'il pioche sur Internet, qu'il génère même aujourd'hui par intelligence artificielle. Je veux dire qu'il explore toutes les façons déjà de faire une image et il les met en peinture à travers différents procédés dont peut-être il pourra nous parler plus en détail. Et il crée en fait avec la peinture. Et je crois que l'exposition, c'était un des enjeux de l'exposition. On a essayé de créer des zones d'attention. En fait, la peinture, elle permet de ralentir le flux. On est saturé par des flux algorithmiques d'images. On est entouré, on est vraiment dans un monde qui, au XXe siècle, depuis le XIXe, mais au XXe siècle, ça s'est accéléré. L'image a pris une place prépondérante. Les écrans ont pris une place prépondérante. Et finalement, on les regarde sans les regarder. Et je crois que la peinture, ce qu'elle peut apporter de manière générale, c'est cette capacité, en fait, par sa matérialité, par peut-être sa taille, par son format, elle demande une certaine attention. Une attention, en fait, qui est complètement captée par les écrans. Et en fait, ces zones d'attention, elles nous poussent à adopter une attitude un peu plus critique. Et le travail de Baptiste, pour ça, il est essentiel, il est indispensable. Il faudrait en fait vraiment parler des images pour comprendre de quoi on parle. Là, tu as cité l'image d'un méga-feu à Los Angeles, donc ça résonne avec l'actualité, mais plus largement aussi avec des enjeux qui sont ceux de l'époque, celui du réchauffement climatique, des récits de destruction. Mais le travail de Baptiste, il touche aussi à l'intime, puisqu'il y a vraiment des images qui sont des images qui relèvent de la sphère privée, par exemple des images qui sont des portraits d'amis de Baptiste. Il y a parfois des personnes de ta famille qui apparaissent dans certaines œuvres, des paysages que tu traverses, des images que tu fais aussi, il y a des correspondances que tu crées. Et en fait, son travail, il vient vraiment interroger la manière dont on réceptionne les images, et qu'est-ce qu'on en fait, et comment elles dialoguent aussi entre elles. Et c'est une sorte de, un peu de mise en abîme, quelque part. C'est il y a quelque chose qui est l'ordre de la réflexion. C'est une approche aussi un peu réflexive sur qu'est-ce que c'est qu'une image et comment on fait pour s'orienter dans un monde saturé d'images.
Alors, si je me place du côté du visiteur, du visiteur qui vient à cette exposition, qu'est-ce qu'il peut voir ? Si tu peux, Baptiste, par exemple, parler d'une ou deux œuvres en particulier, et qu'on essaie un peu de se représenter ce que c'est, et puis ce qui t'a conduit à travailler sur ces images-là.
Deux œuvres en exemple. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une globalité, d'une espèce de...
Vas-y.
De balade à travers un paysage dans lequel on pourrait voir énormément d'images différentes. Comme disait Victor, que ce soit des images que j'ai prises, que j'ai gardées, des captures d'écran, des brochures de journaux. En fait, il n'y a pas de règle dans les images que je garde, à part celles... qu'elles sont assez, qu'elles me procurent une sorte d'émotion qui soit de l'ordre de l'intime ou de l'actualité. Et il y en a une que j'aime beaucoup, qui est dans la première salle du bas, qui s'appelle Pantin, qui est une balade sur le canal de l'Ourcq à Pantin. Et j'ai pris cette photo car elle m'a fait penser à le paysage que j'étais en train de regarder me faisait penser à une peinture des Nymphéas de Monet. Et parce qu'il y avait des feuilles mortes, enfin, c'était un paysage assez, assez triste, et les feuilles mortes de chêne ressemblaient un peu au nénuphar, et il y avait un jeu hyper intéressant dans le reflet de l'eau, il y avait plein de plans qui me faisaient, moi, du coup, penser à une peinture de paysage, mais assez monotone et triste, et le traitement, il est beaucoup plus gai. Et s'il y en a une autre... Il y en a une autre en haut, il y a une image que j'ai faite, une peinture que j'ai faite récemment, qui est un portrait d'un dragon qui boit une bière de manière assez maléfique. Et justement, il y a un cartel que qu'on a écrit ensemble, j'ai écrit les cartels qui sont dans cette salle du haut, et avec Victor on a collaboré sur les textes. Et,
parce que l'exposition est sur deux salles.
Trois salles.
Trois salles. Oui, sur deux niveaux, pardon.
Deux niveaux. Et donc, du coup, ce dragon, à la base, était un prompt que j'avais écrit sur une IA. Et je me suis rendu compte quelques mois après que je parlais de moi avec ce prompt. Enfin, c'est un espèce de...
C'est une image qui est générée par intelligence artificielle.
C'est une image qui est générée par intelligence artificielle. Et en fait, il y a une grande part d'inconscient dans mon travail où... des images que je prends et au fur et à mesure que je les re-regarde ou que je les travaille, je crée plein de ponts et en fait c'est une découverte de mon propre inconscient aussi.
Donc en fait, si on va voir l'exposition, c'est comme si on prenait ton journal intime, qu'on le tournait, et qu'on fait des ponts entre tout ce que... Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ça a semblé intéressant à une institution culturelle représentée ici par... Victor, ça veut dire que c'est le témoignage de... Est-ce qu'on peut dire c'est le témoignage aussi d'une époque ou alors pas du tout ? C'est vraiment un regard singulier sur une époque.
Ce que je peux dire, c'est que pour moi, l'art contemporain, il a de contemporain dans le fait que ça n'est que le prolongement en fait, des enjeux de l'époque. Les artistes parlent de l'époque, ils se confrontent au monde avec les mots qui sont les leurs. Là, la peinture, la sérigraphie, d'autres, ça va être à travers... à travers la sculpture, à travers la vidéo, les écrivains à travers les mots, les cinéastes à travers les images, mais c'est le travail de Baptiste, il résonne avec l'époque, il résonne avec cette profusion d'images et il cherche à il se confronte aussi encore une fois, on l'a dit, avec l'actualité de l'époque. Et puis tu parlais du journal intime, c'est intéressant, c'est en fait un journal intime, souvent, ça fait écho à une actualité qu'on a pu oublier, mais ça parle des affects. Et c'est là où le travail de Baptiste, pour moi, il est puissant. C'est que c'est un travail qui parle avant tout de ses affects, et en fait, qui sont aussi plus largement, qui peuvent être partagés par d'autres. Et il jongle en permanence entre l'intime, le collectif, et c'est aussi un des sujets de l'époque, c'est ce brouillage des frontières entre la sphère publique, la sphère privée. Et je trouve que Baptiste, il deal assez bien avec ça, en fait. Il se confronte à ses enjeux, à ses problématiques, même si le mot n'est pas très très beau, de manière assez magistrale avec sa peinture.
Et pour parler plus techniquement, la technique de la sérigraphie est une méthode de reproduction qui est censée être assez fidèle à ce qu'on veut reproduire. Et moi, j'attache une importance particulière à partir justement à aller ailleurs que la reproduction claire et nette et à utiliser cette technique vraiment comme une méthode de peinture et non plus comme une méthode de reproduction et l'amener vraiment dans le contexte de la peinture.
Parce que justement, j'allais te poser la question pour revenir aux années 60 et que tu as évoqué le pop art. On pense évidemment les sérigraphies à Andy Warhol. Je crois que c'est en 63 au début où il commence, voilà, à travailler sur la démultiplication des images parce qu'on est à une période des années 60 où, l'image commence à prendre forme avec la télévision qui est de plus en plus présente, avec surtout les marques qui sont partout. La marchandise, il interroge beaucoup ça. Il est vraiment dans son époque et lui, donc ce qu'il trouve à faire, enfin lui et d'autres, c'est justement de s'emparer des outils de l'époque. Enfin, j'ai en tête une phrase de Baudrillard, je ne sais plus très bien, mais c'est il s'empare de la marchandise pour faire plus marchandise que marchandise. En parlant des marques et des conserves Campbell. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Donc, on est dans un flux d'images qui n'a encore plus rien à voir. Donc, la démultiplication des images, elle est level je ne sais pas combien. Comment, enfin, j'ai envie de dire, pour poursuivre dans les années 60, what's new, pussycat? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais de plus que la démultiplication des images?
Alors, moi, déjà, j'adore Warhol. Il est assez controversé, en vérité, mais moi, je l'aime beaucoup parce que il y a quelque chose chez lui, justement, dans la démultiplication des images. Il pourrait être accaparé par le bienfait, la belle reproduction, mais en fait, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, il veut juste démultiplier. On voit dans tous les tableaux qu'il fait que c'est crade, c'est mal fait. Il y en a des très bien imprimés, il y en a des très mal imprimés. Et ce n'est pas ça qui est important. C'est vraiment comment l'image se démultiplie, en faire en masse, jusqu'à épuiser la machine. Et je trouve, moi, ce concept hyper intéressant, comment il crée des icônes même avec des images qui sont des fois pas très lisibles. Et même Rauschenberg aussi, c'est un artiste qui fait beaucoup de collages où l'impression, la reproduction est prise comme telle, comme de la reproduction, alors que véritablement, moi, ce que je trouve aujourd'hui d'intéressant dans la reproduction, notamment dans la sérigraphie, c'est qu'il y a des matérialités qui n'ont pas encore été exploitées, c'est qu'il y a une manière d'amener justement les images vers une méthode de représentation et non plus une méthode de reproduction. Et en fait, on arrive à vraiment donner des matières qui amènent l'image dans le statut de la peinture. Et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est ça que, en fait, donner aux méthodes de reproduction une vraie picturalité.
Du grain de la matière.
Ouais.
Qui, exactement. Du coup, qui dénote complètement par rapport aux écrans sur lesquels on voit les images habituellement.
Oui.
C'est vraiment donner corps et matière à ça. Ce serait ça.
Tout à fait. Oui, il n'y a pas beaucoup. Je ne veux pas me glorifier, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes qui utilisent la sérigraphie de cette manière pour peindre comme ça, pour aller chercher justement ce qu'on n'y trouve pas. Et vraiment s'écarter de la reproduction. J'ai eu une période où j'adorais reproduire, où justement j'étais un peu fanatique de la virtuosité de la reproduction et justement collé un peu à la machine, tout en gardant les erreurs qui sont humaines, parce que l'erreur est humaine et que c'est toujours agréable de voir un peu de main d'homme dans tout ça. Et petit à petit, m'en décoller pour aller vers un endroit où limite on reconnaît que l'image et pas comment c'est fait pour arriver à une peinture étonnante et qui m'étonne, qui me surprend moi-même en fait.
Justement, en parlant des émotions, ta réaction, tu as dit au départ, tu t'empares d'une image ou alors tu captures une image, tu photographies, si elle éveille en toi une émotion. Et au bout du processus ou même pendant le processus, qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont les émotions par lesquelles tu passes pendant ton processus de création et à la fin?
Il y a eu... En fait, bon, je rigole parce qu'il y a eu un moment où, quand j'imprimais, je me faisais vachement chier. Pardon, je suis cru, hein, mais...
Mais ouais, mais ça fait partie du processus, quoi.
Ouais, je m'embêtais. C'est justement quand je cherchais de la perfection dans l'impression, je passais un temps monstre à éplucher les techniques, à regarder, à être à coller justement au plus près de la machine. Et aujourd'hui, je cherche un plaisir à être surpris, à avoir des matières que je connaissais pas, à avoir des images qui réagissent d'une manière que je ne connaissais pas non plus, à agencer, pardon, tout ça, à découvrir de nouvelles possibilités de peindre, pour peindre. Et une fois qu'on fait toutes ces découvertes, on peut les assembler, en découvrir des nouvelles. Et en fait, je pense aujourd'hui que j'arrive à être tout le temps surpris, et c'est ça je pense que c'est ça le plus important dans un artiste, de se renouveler et d'arriver à être surpris et ne pas s'emmerder quand il va à l'atelier, quoi.
C'est-à-dire que tu sais à peu près, donc à partir de quelle image tu commences, les techniques que tu vas utiliser, mais par contre, le reste du processus, c'est quoi? C'est l'improvisation, on voit comment tu agis dessus?
Ouais, c'est ça, il y a toujours des idées, des envies. Et une fois que ça s'est posé sur la toile, ça réagit différemment. Enfin, en fonction de ce qui va. Enfin, il y a des prémices, et quand je commence à peindre, je ne sais jamais vers où ça va aller. Et c'est toujours un peu magique. Je pense qu'il y a énormément d'artistes qui disent ça, et c'est ce qui existe vraiment dans la peinture en général, la surprise, et se laisser guider justement par le faire et ce qui va se passer sur la toile. Et je pense que aujourd'hui, c'est un peu. Enfin, j'ai l'impression de parler pour tout le monde, mais je ne pense pas. Mais beaucoup d'artistes ressentent ça, enfin, beaucoup de peintres ressentent ça sur la toile, de se laisser guider aussi.
Et là, donc, on a dit il y a une cinquantaine de toiles. Il y a 7 ans à peu près de travail, donc d'œuvres. Quand tu regardes ça, enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion encore de voir ça, de promener ton œil comme ça, comme presque un visiteur lambda. Tu découvres qui? Enfin, quel artiste? Qu'est-ce que ça te fait? Enfin, ça doit être assez troublant, parce que c'est la première rétrospective de cette ampleur
Ouais,
en institution.
oui, c'est un peu troublant. Bah, pour répondre à la question, j'ai pas vraiment de réponse. Enfin, pour l'instant, c'est encore une surprise. Et je pense que je suis un peu en dehors de ça. Dans le sens où j'arrive pas encore à mettre de regard dessus. J'essaye d'être le plus objectif, et de me mettre à la place du spectateur aussi, parce que j'essaye d'avoir un travail qui est assez accessible. Et justement, là, pendant le montage de l'expo, on a essayé, et même avant, on a essayé de penser à une accessibilité du spectateur, qui s'y sente bien et qui ne se sente pas. Comment dire, qu'on donne les clés au spectateur pour qu'il puisse comprendre le travail. Et c'est dans cette position-là que je me suis mis pour l'expo.
Justement, de quelles clés a-t-il besoin? Est-ce qu'il a besoin de clés ou pas? Ou est-ce qu'il peut y aller les mains dans les poches sans avoir jamais vu, alors j'allais dire, d'autres œuvres artistiques, mais il a vu le monde de toute façon.
Les deux fonctionnent en fait. Il n'y a pas de règles. Il y a des visiteurs qui souhaitent on va dire, un accompagnement. Donc il y a des textes qui accompagnent chaque salle. Il y a des textes voilà, qui introduisent. Parce que l'exposition, elle a été pensée vraiment en 3 temps. Hein. Il y a vraiment trois régimes, j'ai envie de dire, différents de monstration. Et puis. Dans la troisième salle et dernière salle, les textes ont été écrits par Baptiste, donc c'est vraiment une parole à la première personne, c'est plus l'institution qui parle, et ça donne aussi d'autres clés de lecture, c'est une autre façon de rentrer dans l'œuvre. Mais je pense que, notamment dans la première salle, il y avait une volonté voilà, d'un accrochage assez dense, un peu immersif, et d'être confronté comme ça de manière un peu peut-être violente à l'ensemble de ces peintures, de ces tableaux, et ça va peut-être en dérouter plus d'un de prime abord. Mais il n'y a pas de règle pour moi. Je crois que tout le monde a une part de sensibilité. On en parlait l'autre jour avec Baptiste. Et les gens ont l'habitude de manger des images. Et justement, là, c'est essayer de les digérer. Et elles ont été recrachées, digérées autrement. Et Mais moi, je suis très très curieux de voir la réception des œuvres de Baptiste par le public.
Ah, surtout dès l'entrée.
Oui, petite surprise.
Une surprise à l'entrée.
On ne dévoilera pas. Il y a beaucoup de vanité, beaucoup de... La mort est très présente. Ouais. Enfin, la mort, oui.
Pourquoi?
Ou qu'est-ce que tu veux en dire? La question pourquoi est peut-être pas la bonne.
Non, bah, après... Je pense que... Mon père est mort quand j'étais très jeune. Je pense que c'est le point de départ. Et ensuite, ça m'a traîné. Je pense que j'ai fait un deuil assez long. Et aujourd'hui, c'est, en fait, c'est un... Comment dire? C'est un sujet qui m'a toujours un peu suivi sans que j'ai réussi à me l'approprier vraiment. Et parce que je savais... Pardon. Je savais pas comment me l'approprier. Et ce qui s'est passé, c'est quand justement je me suis retrouvé à vraiment peindre avec la sérigraphie, je me suis mis à m'approprier vraiment les images. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de m'emparer de ce sujet-là et de vraiment me l'approprier pour le coup. Et aussi me sentir, on va dire, pas plus proche de la mort, mais de pouvoir en parler parce que j'ai aussi... J'ai connu beaucoup de décès dans ma vie et je trouve ça hyper dur de, comment dire, de rencontrer quelqu'un qui fait un deuil et de jamais savoir quoi dire. On ne trouve jamais les bonnes personnes avec qui parler. Et c'était peut-être une manière de m'approprier ce sujet-là comme on peut s'approprier tous les sujets. Enfin, en fait, c'est un peu un exercice cathartique, j'ai envie de dire. Mmh. Et voilà. Enfin, là...
C'est vraiment l'art comme façon de se tenir face au monde, en fait, de s'y confronter, en fait, donc par la peinture. Et la mort est de toute façon un sujet intemporel, universel, qui nous touche toutes et tous à un moment donné. Et évidemment, c'est vrai que c'est assez présent dans le travail de Baptiste. Il y a même une salle qui est intégralement consacrée.
Qui est dédiée à ça.
Qui est dédiée à ça.
Mais c'est une... Fin... C'est une belle manière d'en parler, je trouve. C'est pas du tout la mort vue de manière macabre. C'est justement ça, c'est pour apprendre à vivre avec et.
Ouais, c'est le propre des vanités.
Ouais, que ce soit plaisant, que ça fasse partie de la vie finalement, et justement de rendre ça plus joyeux que triste, et d'accepter et de dealer avec.
Oui, d'ailleurs, l'exposition, notamment dans la première salle, il y a des. Tout est en couleur, alors je vais pas dire c'est joyeux, c'est doux, il y a tout des tons pastels parmi je sais pas combien il y a d'œuvres là dans la première salle, une quinzaine. Il y a quelque chose effectivement qui berce aussi. Et alors à l'étage il y a des couleurs un peu plus flashy, on est voilà, c'est peut-être un petit peu plus violent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette part qui est propre aussi à l'art, même si quelquefois la beauté n'est pas présente dans l'art, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétique qui fait du bien et qui permet d'aborder des sujets, même si ce sont des sujets difficiles.
Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup, comme c'est des images qui sont violentes et que le monde globalement est assez violent, j'essaye avec ces peintures d'adoucir un petit peu tout ça et encore une fois c'est vraiment essayer de vivre avec quoi. Et chaque peinture est un essai pour rendre ce que je vois un peu plus doux et me l'approprier de manière plus simple. Et voilà.
Allez voir cette exposition. Allez voir cette exposition. Elle est au château d'Aubenas jusqu'au 8 mars, avec également d'autres expositions dont nous parlerons, dont nous avons parlé, je ne sais que dire. Je suis Vertical May, qui réunit 6 artistes qui réinventent des écologies critiques et des manières de vivre avec d'autres formes de vivant. Et puis Gilbert Garcin, photographe aussi, qui est toujours là au château. Merci beaucoup, Baptiste Cachia.
Merci,
Canicule.
Sophie.
Canicule, donc rétrospective au château d'Aubenas. Et merci beaucoup, Victor Secrétan, directeur du château.
Merci, Sophie.
D'être venu ici. Et
merci, Sylvain.
Merci, Sylvain.
Pour la réalisation de cette émission. Et merci à vous, auditrices, auditeurs. Restez à l'écoute de Fréquence 7 à 13h. C'est la rediffusion de Sam Travail. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, c'est Solidaire d'abord. À 19h, l'écho du parquet. Et à 21h, c'est Hexagone Jazz and B. La rediffusion aussi, vous entendrez Michel Jonas au Palais des Sports en 1985. Et puis, une dernière info, n'oubliez pas, inscrivez ça sur votre agenda. Jeudi 26 février à 18h à la Bobine, c'est notre AG sous un format comme à la radio. C'était comme l'année dernière, avec plateau d'interview en public, c'est-à-dire avec vous. C'est le moment, plus que jamais, de reprendre le pouvoir de ce qui passe entre vos oreilles et de soutenir le média local indépendant et délicieusement décalé depuis 1982. Ce sera donc jeudi 26 février à 18h à la Bobine, l'AG de Fréquence 7. On se retrouve demain. Ciao.